écoutez VOA Afrique, il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounezelo dans ce studio pour vous présenter son bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, a de nouveau dénoncé dimanche un génocide à Gaza et appelé ses 57 pays membres à imposer des sanctions à Israël dans une résolution adoptée à l'issue de son sommet à Banjul. L'OCI appelle également à un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel. Seule une poignée de chefs d'État africains ont fait le déplacement jusque dans la capitale gambienne à l'occasion du 15e sommet de l'OCI qui s'est ouvert samedi. L'immense majorité des présidents des 57 pays membres se sont fait représenter. Au Togo, le parti du président Faure Gnassingbé a largement remporté les élections législatives de lundi, a annoncé samedi la commission électorale, ce qui va permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu d'une nouvelle constitution adoptée en avril. Cette réforme constitutionnelle a été vivement critiquée par l'opposition togolaise et des organisations de la société civile qui dénoncent un coup d'État institutionnel et qui voient une manière pour Faure Gnassingbé de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Selon la précédente constitution, M. Gnassingbé n'aurait pu briguer qu'un seul dernier mandat en 2025. Au Tchad, la population est appelée demain lundi aux urnes pour une élection présidentielle. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans, et le premier ministre qui l'a nommé, Succès Masra, tous deux candidats, ont promis chacun samedi de gagner cette élection dès le premier tour. Les deux hommes seront aussi opposés à 8 autres candidats, dont une seule femme. Au Niger, de nouveaux instructeurs russes ont atterri samedi à Niamey, où ils ont effectué 2 livraisons de matériel militaire dans 2 avions cargo. Moins d'un mois après l'arrivée de premiers instructeurs, a annoncé la télévision publique nigérienne. Jeudi, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a indiqué que des soldats russes étaient installés dans une base des forces aériennes nigériennes abritant des soldats américains près de l'aéroport de Niamey. Le régime militaire du Niger a dénoncé en mars l'accord de coopération militaire en vigueur avec les États-Unis, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington. Mi-avril, Washington a accepté de retirer du pays ses plus de 1000 soldats. Des discussions entre les États-Unis et le Niger sont toujours en cours concernant les modalités de ce retrait. Toujours au Niger, plusieurs mines d'or exploitées par une société chinoise dans le nord désertique du pays ont été temporairement fermées vendredi après la mort de plusieurs dizaines d'animaux ayant bu des eaux rejetées par les puits d'exploitation, ont indiqué dimanche des autorités et des sources locales. Selon la même source, une dizaine de villages avaient déjà porté plainte devant les tribunaux qui doivent rendre une décision en appel mercredi. Le Kenya a annoncé dimanche un nouveau bilan de 228 morts depuis mars dans des intempéries qui ne montrent aucun signe d'accalmie, même si le pays a échappé aux ravages d'un cyclone ayant balayé la veille ses côtes et celles de la Tanzanie. Le cyclone tropical Hidaya a balayé ces deux pays d'Afrique de l'Est sans faire de victimes ni de dégâts majeurs, après avoir perdu de sa puissance en touchant terre samedi. La Tanzanie a indiqué dimanche que le cyclone ne présentait plus de danger pour le pays. Une quarantaine de migrants tunisiens très jeunes ont embarqué clandestinement en janvier vers l'Europe et depuis plus de 4 mois, leurs proches qui avaient gardé jusque-là le secret désespèrent de recevoir des nouvelles des disparus. Les occupants du bateau étaient surtout des jeunes de 17 à 30 ans, originaires d'El Hancha, au nord de Sfax. Les familles demandent aux autorités la poursuite des recherches.
Voix et traduction. tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Nous explorons les richesses spirituelles et culturelles de différentes traditions religieuses à travers le monde. Eric Manirakiza avec vous au micro, Michel Claire-Joseph assure la réalisation et la mise en onde. Ce soir, nous plongeons dans le cœur de la Pâque juive, l'une des célébrations les plus significatives du calendrier hébraïque. Du lundi 22 au mardi 30 avril 2024, la communauté juive s'est rassemblée pour commémorer l'exode du peuple hébreu hors de l'Égypte antique, un événement fondateur de leur identité religieuse et nationale. Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Le père Grégor Prichotko est avec nous. Bonsoir, mon père.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
Je signale que vous êtes docteur en droit canonique de l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Merci d'être avec nous.
Merci à vous. Merci à vous.
Père Grégor, cette année, la célébration de la Pâque juive se déroule dans un contexte de guerre et de tension. Quel impact cela a-t-il sur la manière dont la communauté juive vit et perçoit cette fête ?
Ici en France, où j'habite dans une ville qui s'appelle Saint-Brice-sous-Forêt, sans doute c'est la ville la plus juive de France au point de vue de pourcentage de la présence des différentes communautés juives. Cela se ressent particulièrement parce que chaque jour, pendant le Pessah, pendant la Pâque juive, on est en contact avec les personnes effectivement qui fêtent la plus grande fête de la religion juive. Et on a des échos de tout ce qui se passe, bien évidemment, actuellement en Israël, dans ce conflit qui est très compliqué, très difficile. Voilà, effectivement, cette année, cette Pâque juive est marquée par la guerre et les personnes sont continuellement sous tension. Mais cela n'empêche que la célébration se déroule de la manière traditionnelle. Donc, la Pâque juive a débuté le 22 avril et elle dure 7 jours en Israël ou 8 jours en dehors d'Israël en diaspora. Le 30 avril, c'est la dernière journée pour les communautés de diaspora pour la Pâque juive et on croise beaucoup de personnes qui continuent à fêter cette fête. En Israël, il faut savoir que c'est que la première journée et la dernière journée de cette semaine de Pessah qui sont les journées fériées, sinon les autres jours de la semaine où Pessah se fête, les gens vont au travail.
Alors, quelle est l'importance de la Pâque juive dans la tradition judaïque et comment est-elle célébrée aujourd'hui ?
Effectivement, Pâque juive ou Pessah est l'une des 3 fêtes de pèlerinage, dites de pèlerinage de judaïsme, qui sont prescrites par la Bible hébraïque. Donc, la Pâque juive commémore l'événement essentiel de la formation de peuple hébreu en tant qu'une nation, de la prise en considération de son identité et finalement cet exode de l'esclavage vers la liberté et qu'il a vécu dans l'Antiquité avec les retrouvailles de cette terre promise par Dieu qui devient la terre d'Israël, donc Eretz Israël, la terre sainte. Par conséquent, cette fête est très importante pour le monde hébraïque et est à la racine de l'identité du peuple hébreu et par conséquent du peuple juif. C'est une fête qui marque justement cette libération du joug de Pharaon, qui célèbre la naissance d'Israël et la fin de l'asservissement. Elles correspondent historiquement au début de la saison de la moisson de l'orge qui inaugure le cycle agricole annuel. Comme la plupart des fêtes religieuses, bien souvent une telle ou telle fête religieuse est liée au cycle agricole dans l'Antiquité et donc cette fête correspond à cette renaissance d'un monde nouveau, naissance de la vie nouvelle. Donc c'est pour cela qu'elle est célébrée au printemps Elle commence le 14e jour du mois de Nissan du calendrier hébreu.
Vous venez d'expliquer brièvement l'histoire et les origines de la Pâque juive, ainsi que son lien avec la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Quels sont les rituels et les traditions associées à la célébration de la Pâque juive et comment ceux-ci sont-ils observés dans la communauté juive contemporaine?
Dans la communauté juive contemporaine, les festivités commencent au soir. Et j'ai assisté une fois, parce que j'ai des amis qui m'ont invité à fêter Pessah, la Pâque juive dans la famille, une fois à cette célébration. C'est très émouvant parce que c'est le plus jeune de la famille demande au père de famille qui préside la célébration autour d'un repas, demande qu'est-ce que nous fêtons ce soir. Et c'est le père qui commence à répondre avec les phrases rituelles. Il y a un petit livret qu'on appelle les Haggadah qui permet de suivre les étapes précises de cette commémoration. Et le repas et les gestes du repas, les mets qui sont présentés, font comme une sorte de mise en scène de cet exode de peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise, de l'esclavage vers la liberté. Et on lit beaucoup le Cantique des Cantiques qui manifeste, nous savons que c'est le livre poétique de la Bible qui illustre les relations entre une fiancée et un fiancé. Symboliquement, cela représente Dieu qui s'engage dans une alliance vis-à-vis de peuple hébreu et donc cette relation amoureuse qui illustre la libération. Donc, le Cantique des Cantiques est universellement réalisé lors de Pessah. Et les usages peuvent être un petit peu divergents, tout dépend des traditions locales que la diaspora juive a vécues. Ça peut être un petit peu différent entre les séfarades et les ashkénazes et le milieu culturel où les communautés ont vécu. Au cours donc des deux premiers dîners rituels, qui sont appelés seder, les familles consomment la matzah, donc le pain non levé. Cela symbolise la hâte avec laquelle le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, qu'on ne pouvait pas attendre le temps que le pain se lève, donc nous faire des vrais pains. On a fait des galettes sur les pierres réchauffées. Et donc, en commémoration de cet exode rapide, on fait des galettes sans levain, donc qu'on appelle matzah dans la tradition des familles juives. Il y a 6 éléments qui accompagnent ce repas rituel. Ils ont tous une signification. Déjà, il y a les herbes amères qui renvoient aux conditions difficiles de l'esclavage. Ensuite, il y a aussi une sorte de dessert, je ne dirais pas d'un plat sucré, plutôt composé de vin, de figues et de fruits secs, qui rappelle le mortier des pyramides. Il y a aussi les légumes. Actuellement, c'est les carottes, les pommes de terre, par exemple, qui symbolisent le renouveau, donc ce sont des légumes non amers qui symbolisent le renouveau. Voilà, généralement on place aussi sur la table un os qui rappelle l'agneau sacrifié. On place également l'œuf dur qui rappelle la destruction du temple de Jérusalem parce que pour manger l'œuf, il faut casser sa coquille. Et ensuite, il y a aussi la salade romaine qui envoie également à l'esclavage par son amertume. Donc voilà, et différents plats accompagnent les différents passages, parce que là le récit des psaumes, il y a le récit du livre de l'Exode, il y a le rappel des plaies d'Égypte, etc. Donc il y a différents gestes que j'accomplis pendant ce repas. Il y a les coupes remplies de vin et une coupe qui est placée au milieu parce que pour le peuple juif, donc il manifeste par cela l'attente de Messie et cette coupe de bénédiction qui se trouve au milieu de la table, personne ne la touche. Et c'est très touchant de savoir que lors de la célébration de Pessah, donc de cette fête, au début de la fête juive, Jésus, au début du christianisme, justement, institue l'Eucharistie en prenant cette coupe réservée au Messie. Donc il y a cette continuité, accomplissement en quelque sorte de Pessah juif, ensuite aussi dans la fête que les chrétiens hériteront, mais qui lui donneront tout un sens complètement nouveau. Désormais, c'est la libération non pas de l'esclavage physique, dirais-je, mais de l'esclavage au péché. C'est la libération quand l'être humain retrouve la liberté de fille ou de fils de Dieu.
suivez le dialogue des religions sur VOA Afrique. Ce soir, nous parlons de la Pâque juive. Nous observons une courte pause et restez à l'écoute. Nous revenons dans un instant. Notre invité ce soir, c'est le père Grégor Pridiotko. Alors, mon père, en quoi la Pâque juive se distingue-t-elle de la Pâque chrétienne, tant sur le plan historique que liturgique?
En ce qui concerne la Pâque chrétienne, il y a deux fêtes, en fait, que les chrétiens héritent de la liturgie juive. C'est la fête de Pâques, effectivement, qui, chez les chrétiens, reçoit un sens complètement nouveau. C'est le sacrifice du Christ et ce pain, ces galettes que les Hébreux mange pendant la fête de Pâques, le Christ institue lors de la dernière scène de Pâques, justement ce repas rituel, représente lors de ce céder, le Christ prend le pain pour le transformer en son corps en le donnant à tous, qui manifeste cette vie qu'il veut communiquer, la vie divine qu'il veut communiquer à tout être humain, et la coupe de bénédiction qui se trouve au milieu de la table devient la coupe du sang du Christ qui représente la vie venant de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a à la fois une continuité, mais une rupture avec une simple commémoration. Parce que si la Pâque juive, c'est la commémoration annuelle de cette libération du joug de Pharaon, de la naissance du peuple d'Israël, la Pâque chrétienne, c'est la naissance du peuple nouveau, où n'est pas simplement le peuple d'Israël qui est concerné, mais l'humanité entière, qui reçoit cette vie nouvelle par le sacrifice du Christ. Donc il y a à la fois la continuité, à la fois la, un sens nouveau qui est donné à cette Pâque chrétienne. Les textes qui sont utilisés dans la grande partie sont les mêmes, les textes du livre de l'Exode, les psaumes, et quand on assiste en étant chrétien, si on est invité à la Pâque juive, on retrouve pratiquement les mêmes texte de l'Ancien Testament qui accompagne cette commémoration et on est très à l'aise vraiment dans la célébration. C'est à la fois les similitudes et les différences. La deuxième fête qui sera héritée également par les chrétiens, ça va être la fête de Shavuot. La fête 50 jours après Pâques, c'est le don de la Torah sur le mont Sinaï au peuple hébreu. Et pour les chrétiens, c'est la venue de l'Esprit Saint qui devient la loi, qui demeure désormais dans le cœur de l'homme et qui dirige ceux qui acceptent la vérité vers la vie éternelle. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient pour opérer ce changement dans le cœur de l'homme.
J'ai été surpris de découvrir que des non-juifs célèbrent la Pâque juive. Cela m'est apparu lorsque j'ai souhaité une joyeuse Pâque à deux amis qui m'ont expliqué qu'ils célèbrent plutôt le Pessah.
La fête de Pâques en soi, comme la fête de printemps, qui marque une naissance nouvelle, bien souvent dans les différentes religions, on remarque d'autres fêtes au printemps qui sont liés au calendrier surtout agricole. Par exemple, chez les peuples de l'Asie centrale, c'est la fête de Navrouz ou de Nauriz. Quand le soleil prend de l'ampleur, quand la nature commence à refleurir, bien souvent, c'est à cette époque que des différentes fêtes sont fixées, qui sont à l'origine des fêtes agricoles pour fêter la renaissance, pour demander à Dieu de bénir les semailles et donc ce qui est un acte d'invocation de cette prospérité, et finalement qui ont été canonisés d'une telle ou telle manière par des différentes religions. Et donc ces fêtes de printemps peuvent prendre des coloris, si j'ose dire, un petit peu différents dans les différentes civilisations.
Mais Père Grégor, mes deux amis qui partagent la croyance en la résurrection de Jésus-Christ choisissent néanmoins de célébrer la Pâque juive.
C'est la question de positionnement de calendrier liturgique des différentes communautés. Parce que nous savons que, par exemple, dans le calendrier chrétien, cette année, la Pâque chrétienne a été célébrée le 30 mars, c'est très tôt dans l'année. Et la Pâque des églises orientales, des églises orthodoxes notamment, ou des chrétiens catholiques orientaux, sera célébrée le 5 mai Donc il y a le calcul qui n'est pas le même. Et il se peut effectivement que certaines communautés non pas tellement centrées sur la décision de concile de Nicée qui demande, donc c'est le premier concile œcuménique en 325, qui demande que la Pâque chrétienne soit distinguée de la Pâque juive. Donc on demande de calculer cette Pâque, ne pas la mettre en tel jour, mais le premier dimanche près de la première lune qui suit le 21 mars. C'est des calculs très compliqués, c'est pour cela que pour les églises occidentales, ça veut dire l'église catholique ou les églises protestantes, la Pâque est célébrée suivant le calendrier grégorien et quelquefois ça correspond aussi avec les églises orientales, une fois tous les 7 ans environ, mais bien souvent on a des écarts très importants comme cette année. La Pâque occidentale est célébrée le 30 mars et la Pâque orientale le 5 mai. Peut-être certaines communautés qui se déclarent chrétiens préfèrent fêter la Pâque juive pour ne pas entrer dans ces calculs assez compliqués. C'est tout à fait possible. C'est encore une fois le choix de calendrier liturgique.
Donc, pas de différence concernant la signification spirituelle juive pour les fidèles ?
Pour les communautés chrétiennes qui fêtent la Pâque suivant le calendrier hébraïque, je dirais que quand même il y a plutôt la signification de commémoration que la réactualisation des événements de la mort et de la résurrection du Christ sur lesquels sont centrés les rites célébrés par l'Église catholique ou les églises orthodoxes, par exemple. Donc, en adoptant le calendrier plutôt ciblé sur la commémoration de la Pâque juive, parce que c'est deux commémorations, c'est une fête de pèlerinage à Jérusalem, pour les Juifs, pour les communautés chrétiennes qui sont dans cette perspective, au début de l'histoire chrétienne, il y avait aussi des communautés qui suivaient, on les appelait les judaïsants, en quelque sorte. Donc, qui était attaché à ces anciens coutumes du judaïsme, mais dans quelle mesure, justement, la résurrection du Christ et la réactualisation des événements de Triduum Pascal, de la mort et de la résurrection du Christ, quel accent on met sur cette commémoration? Je crois que pour certaines communautés, ça peut être vraiment différent. Voilà, et surtout pour les communautés protestantes. Sinon, en ce qui concerne les communautés catholiques et orthodoxes, c'est le même sens. C'est la naissance d'un peuple nouveau par le sacrifice du Christ, c'est la réactualisation de la Pâque du Christ, de la scène de Jeudi Saint, où le Christ institue le sacrement de l'Eucharistie qui perpétue sa présence à travers le temps et l'espace. Donc il y a les accents différents qui sont mis sur la fête de même événement.
Père Grégor, en tant que spécialiste en droit canonique, comment vous percevez le rôle et l'importance de la Pâque juive dans le dialogue interreligieux et la promotion de la compréhension mutuelle entre les différentes traditions religieuses dans un contexte mondial marqué par les conflits et les divisions?
Oui, il est vrai que le dialogue entre religieux dans les différents pays où la composante religieuse dont telle ou telle religion sont plus ou moins importantes, le dialogue, il est toujours positif sur le plan social. Ici, donc en France, dans la ville de Saint-Brice où je réside, il y a eu une initiative qui est malheureusement, au début de conflit, donc israélo-palestinien, il y a eu une idée qui est venue de la part des musulmans de pouvoir organiser une rencontre entre les ministres de culte chrétiens, musulmans et juifs, pour pouvoir manifester où chacun pourrait prier à sa manière, dire une prière, et il ne s'agissait pas d'une prière ensemble, parce que pour certains c'est impossible de prier avec les représentants de l'autre religion, tels sont leurs principes de pratique. Voilà. Mais au moins pour pouvoir manifester cette unité de désir de la paix et échanger en gestes de paix. C'est une belle initiative qui venait de l'imam local, mais malheureusement qui n'a pas pu aboutir à sa réalisation parce qu'ensuite les tensions se sont très prononcées et la guerre, si on peut dire, est entrée dans cette dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est devenu impossible parce qu'il y a eu trop de douleurs de tous les côtés. Mais le dialogue continue. Au moins, entre nous, les ministres de culte des différentes religions, nous continuons à se souhaiter mutuellement les fêtes. Donc là, les musulmans viennent de fêter la fin du Ramadan. Nous, les chrétiens, la fête de Pâques. Maintenant, nous nous trouvons dans l'aboutissement de cette semaine pascale pour les juifs. On essaye de maintenir ce dialogue, ce qui peut être moins évident dans les pays en guerre qui composent la Terre Sainte. Voilà, c'est moins évident, mais je crois que chaque, au moins nous, les ministres de culte, nous pouvons contribuer à ce que cette paix puisse venir plus rapidement. Déjà, par la prière pour la paix, ce que nous faisons chacun à notre manière, mais toujours en désirant cette paix et en réprimant tout l'esprit de vengeance ou de haine qui peuvent habiter les cœurs des fidèles.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des et religions. Au cours de cette émission, nous avons exploré l'histoire de Pessah, des rituels et des traditions qui l'accompagnent, ainsi que sa signification spirituelle profonde pour les croyants juifs. De plus, nous avons noté les différences entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, mettant en lumière les points communs et les distinctions entre ces deux importantes célébrations de foi. Père Grégoire, merci beaucoup pour votre contribution.
Merci à vous, Eric. Merci beaucoup.
Merci également à vous, chers fidèles auditeurs de Dialogue des religions. Eric Manilakiza vous dit au revoir et à bientôt.
À 19h05 TU. Un moment de convivialité pour nourrir votre esprit dans cet espace de dialogue. Vos opinions divergentes sur vos professions de foi et la spiritualité peuvent dialoguer et chercher un terrain d'entente. Dans la diversité, nous pouvons construire ensemble le monde sans passer par l'uniformité. Nous pouvons entretenir la sincérité dans le dialogue et promouvoir la liberté de conscience et d'expression. C'est tous les mercredis à 19h05 TU sur VOA Afrique.
Est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com.